Le commentaire de
Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
Alors Emmanuel, il y a une crise là, qui fait rage au sein des forces armées.
Oui, c'est quand même assez... En tout cas, c'est certainement du jamais vu parce qu'on a appris hier soir que le chef d'état-major, qui vient à peine d'être nommé et d'entrer en fonction le 14 janvier, est suspendu parce qu'il fait l'objet d'une enquête des Forces armées canadiennes pour inconduite.
Oh! Inconduite sexuelle?
Mais ajoute à ça, c'est pas clair là à l'heure où on se parle. Mais ajoute à ça le fait que son prédécesseur, qui est parti très rapidement, alors, lui, c'est Art MacDonald. Son prédécesseur, Jonathan Vance, qui avait été nommé par M. Harper, est parti assez rapidement, a démissionné le 23 décembre, et on apprend, au mois de janvier, que lui aussi fait face à des plaintes et à une enquête pour inconduite sexuelle et harcèlement sexuel également. Alors là, tout ça survient dans un contexte où, faut-il le rappeler, depuis 2017, les forces armées canadiennes sont supposées être en train de mener la vaste opération Honneur pour débarrasser les forces armées canadiennes d'une culture de harcèlement sexuel et d'une culture du viol à l'égard des femmes qui servent dans les forces armées. Alors, c'est plus qu'inquiétant. Et ça remet en question toute la crédibilité de cette démarche-là et tous les efforts et réel du gouvernement pour prendre le problème au sérieux. Parce que là, tu te dis pourquoi on a agi, pourquoi on n'a pas agi, pourquoi on n'a pas fait des enquêtes plus tôt. Et ce qui est intéressant, c'est commençons par John Vance, celui qui est l'ancien chef d'état-major des Forces canadiennes. On a appris par le biais du réseau Global qui a beaucoup enquêté là-dessus que déjà au moment de sa nomination, il y avait des allégations. Et d'avoir une relation amoureuse avec une subordonnée. Et l'argument qu'il aurait offert à l'époque, c'est que c'était permis parce qu'elle n'était pas dans sa chaîne de commandement. Et donc, on avait un peu passé l'éponge là-dessus. Alors déjà, ça reflète, est-ce que les temps changent? Je l'espère, là. Mais comme dirigeant d'une institution qui est supposée être au-dessus de tout soupçon, respecter les règles, mais tu sais, au corps de tour, c'est dans la culture profonde, les forces canadiennes, qu'à l'époque, on a décidé de passer l'éponge, soulève des doutes. Mais on a appris que depuis, il y a plusieurs autres allégations qui ont fait surface, et l'une de ces femmes a témoigné en entrevue cette fin de semaine à Global. Et c'est d'une tristesse de l'entendre parce qu'elle nous raconte qu'elle était sa blonde avant qu'il se marie. Ça, il n'y avait pas de problème. C'était permis, c'était connu, etc. Mais lorsqu'il s'est marié, elle est devenue sa maîtresse. Et qu'au fil des ans, à deux reprises, il l'a fait muter dans ses affectations pour qu'elle soit dans la même ville que lui. Mmh. Et donc, sous son commandement. Et c'est donc établi à ce moment-là un rapport d'autorité et de contrôle sur elle. On s'entend. C'est toujours ça qui arrive. C'est pour ça que c'est interdit dans des entreprises, dans l'armée et tout le reste. Mais non seulement ça, c'est que ça s'est su dans les forces armées et après ça, elle a fait l'objet de harcèlement sexuel, de tentatives de viol, de tout le reste, parce qu'elle était vue comme la guidoune générale.
Oui.
Et quand l'opération Honneur, où on a demandé aux femmes de dénoncer les agressions sexuelles, a eu lieu, cette femme raconte qu'elle a dit à son amoureux, John Vance, qui était chef d'état-major, qu'elle avait été violée à une époque. Et il lui a dit, je ne peux rien faire parce que si je me porte à ta défense, les gens vont savoir que tu es ma maîtresse. Okay. Et elle va jusqu'à dire qu'à partir du moment où les allégations à son égard se sont mises à circuler, il l'aura appelé pour lui dire de mentir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est fait demander, mais pourquoi vous parlez maintenant? Et elle explique qu'elle parle maintenant parce que la sous-ministre responsable des affaires publiques à la Défense nationale, qui est une femme et qui est une civile, lui a dit « Vas-y, je te donne la permission de parler. » Alors, il y a combien de femmes qui subissent ça et qui n'ont pas eu la permission de parler Et ça, ça survient 4 jours après ça. Donc, quand il y en a une qui a enfin le courage de briser le silence et de tout raconter, de tout déballer, puis il y a une certaine humiliation derrière ça. On s'entend, là, d'avouer que tu étais la maîtresse du chef d'état-major pendant 20 ans, là, c'est pas très glorieux. 3 jours plus tard, 3 jours après son témoignage, c'est le nouveau chef d'état-major qui est suspendu parce qu'il est visé par une enquête.
Hey boy! Fait que cette culture-là demeure encore ancrée au sein des forces.
Et là, le problème, c'est que dans le cas de John Vance, depuis le début, le premier ministre, le ministre de la Défense n'a jamais répondu à la question de s'il a informé le premier ministre des allégations qui circulaient depuis longtemps, parce qu'il y en a eu des vertes et des pas mûres à ce sujet-là. Il n'a jamais répondu. Donc, est-ce que le gouvernement était au courant qu'il y avait des allégations contre Jonathan Vance et n'a pas agi? Question numéro un, à laquelle il va falloir obtenir une réponse à un moment donné. Question numéro deux, c'est que dans le cas de John Vance, ils peuvent dire « c'est pas nous qui l'ont nommé ». Mais Art MacDonald, c'est eux qui l'ont nommé. Pour remplacer quelqu'un qui fait l'objet d'allégations d'inconduite sexuelle, la question se pose, est-ce qu'ils ont mal fait leur enquête et leur vérification? Parce que c'est pas normal que quelqu'un soit l'objet d'une enquête un mois après avoir été nommé.
Ben non. Mais tu fais ça avant.
Je trouve ça tellement troublant parce que c'est l'état-major des Forces armées canadiennes là, qui est complètement secoué par des histoires et des allégations très graves. Alors
et pourtant,
que c'est
quand
ce même état-major qui promet depuis 3 ans qu'il s'occupe du problème.
Parce qu'on se souvient, là, justement, il y a 3 ans, avant, entre autres, moi, j'avais lu, entre autres, une série de textes dans l'actualité par Noémie Mercier qui avait écrit là-dessus sur la culture du viol au sein des Forces armées canadiennes et tout ça. C'était un gros truc, puis il promettait là, de faire un changement en profondeur, visiblement.
Mais non, mais on a même nommé l'ancienne juge à la Cour suprême, Marie Deschamps, pour faire une enquête et pour apporter présenter des recommandations. Mais à ce jour, et une des recommandations, c'était d'avoir une espèce de centre d'aide, un centre d'appel, OK, pour les femmes qui se disaient victimes, pour pouvoir être accompagnées là-dedans. Et la femme qui est en charge de ce centre-là dit qu'ils n'ont pas les moyens d'être efficaces et d'épauler les victimes à ce jour, 4 ans plus tard.
Pas fort. Pas fort.
C'est tellement troublant, là, mais c'est comme, enfin.
Et en terminant, l'aide médicale à mourir, ça niaise au fédéral, ça n'a pas d'allure.
12 septembre, le jugement Gladue-Truchon est déposé, qui invalide la portion de la loi sur l'aide médicale à mourir, qui était, de toute façon, tout le monde savait qu'elle était inconstitutionnelle, qui exigeait que ta mort soit raisonnablement prévisible. Le gouvernement demande un délai parce qu'il y a eu des élections. Ça, je pense que ça s'explique. On vient du Parlement, pas de projet de loi. On le dépose à la dernière minute. On demande une extension à cause de la pandémie. On demande une troisième extension au mois de septembre. Et là, le gouvernement est coincé parce que il y a une divergence de vue entre le Sénat et le gouvernement là-dessus, parce que le Sénat veut, entre autres, parce qu'en ce moment, l'aide médicale à mourir n'est pas accessible aux personnes dont la seule condition, c'est une maladie mentale. Et donc, plusieurs croient qu'il faut que ça soit accessible à ces gens-là. Il y a même eu des jugements des tribunaux à cet effet-là. Et donc, le Sénat a demandé qu'il y ait une clause pour 2 ans, et après ça, on enlève l'exclusion. Et après ça, et il y a toute la question du consentement préalable, que le Sénat veut qu'il soit permis. Donc, quand le jour où tu obtiens un diagnostic d'Alzheimer fulgurant, quand tu as encore toute ta tête, tu sois capable de donner ton consentement à l'avance dans certaines conditions, et le gouvernement ne veut pas. Et à travers tout ça, les conservateurs font de l'obstruction, refusent qu'on débatte de la loi. Alors, si vendredi, le projet de loi n'est pas accepté, on va être devant le vide où tout va être permis au Canada.
Coudon, on va leur envoyer Véronique Yvon pour qu'elle règle ça?
Ah non, mais c'est chez les conservateurs, c'est un enjeu qui divise beaucoup le caucus. Et je crois que ça reflète d'une certaine façon la difficulté qu'a le nouveau chef conservateur Erin O'Toole à trouver une façon d'assurer la cohésion de son caucus et des factions qui sont plus conservatrices sociales et plus centristes sur ces enjeux-là. Puis c'est un enjeu moral, on s'entend. Généralement, ce sont des votes libres pour des raisons évidentes. Mais là, le fait que le chef de l'opposition officielle s'en remette finalement à plein de tactiques dilatoires, ne peut que alimenter la perception et le jugement qu'il a beaucoup de difficultés à lui-même faire l'unité de son caucus et amener son caucus et son parti plus vers le centre, comme il veut le faire en vue des prochaines élections.
Facile à dire, moins facile à faire. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci.
Ça fait plaisir.
Merci.